Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, c'est Adrien de Radio PFM qui nous propose un focus sur la 14e édition du festival Motocultor qui se déroulera dans le Finistère du 17 au 20 août prochain. Entretien avec Yann Le Bareillec, programmateur du festival, à retrouver dans la carte blanche en fin d'émission. Avant cela, nous retrouverons Jordan de Radio Méga en compagnie de Coco Aikura pour présenter l'album A Place Called Home, sorti le 12 mai chez Chromatics et Musigami. Mais on commence par vous présenter l'album Face, deuxième production du projet Noise Tourangeau, Mossai Mossai, sorti le 26 mai sur Figure Libre Records. On retrouve le guitariste Philémon en ligne avec Romain de la radio PFM à Arras.
Hello, vous êtes avec Romain de PFM à Arras pour Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock. Et le morceau que vous venez d'écouter était un extrait du titre Cérébral tiré de Face, le nouvel album de Mossai Mossai. Pour nous parler de ce disque, Philémon que l'on a contacté par téléphone. Donc Philémon, salut, je te laisse te présenter.
Moi c'est Philémon, du coup je suis le guitariste de Mossai Mossai. Et guitariste dans plusieurs projets à Tours, et voilà.
Du coup, Mossai Mossai, il est né comment ce projet ?
On s'est rencontré à Jazz à Tours, c'est pas trop original pour un groupe de Tours. À l'époque, on était dans un atelier avec Marie et Tanguy, du coup Marie qui est au chant et Tanguy à la basse. Et il y avait à la batterie aussi Brice, le batteur de Stuff Foxes. Du coup, on avait rencontré Jean-Loup dans un autre atelier. Puis en fait, on a commencé à faire de la musique tous les quatre. On a carrément accroché et on s'est mis en colocation tous les quatre. Du coup, c'est là qu'on a eu l'idée d'écrire le premier album, Kaléidoscope, qui n'a pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui.
Et ça, ce changement entre les deux disques, est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que vous venez d'univers musicaux assez différents et que vous avez un peu plus essayé d'intégrer toutes vos influences dans le nouvel album ?
Ouais, carrément. Du coup, on vient tous d'univers différents. Donc, par exemple, Jean-Loup, le batteur, lui, était beaucoup plus musique électronique. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous a permis d'entrer ça dans l'album, lui, il faisait beaucoup de machine live. Donc, petit à petit, on a réussi à ce qu'on appelle triguer la batterie, donc la brancher à des synthés. Et du coup, mélanger la batterie acoustique avec des sons électroniques. Marie et moi, à l'époque, on était plutôt sur les mêmes choses, plus un peu du rock 70, un peu psyché, tout ça. On avait déjà l'habitude d'écouter un peu les mêmes choses. Et Tanguy, lui aussi, plutôt une autre école, même parfois un peu sur des claves différentes, de musique, la musique trad, mais quand même, après quand même avec un esprit rock. Donc chacun des petites choses différentes.
D'accord. Et en parallèle de ces influences que vous avez pu intégrer, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une envie de vous éloigner de l'univers rock de Kaléidoscope, assez classique finalement, très très typé psyché, pour partir vers des choses plus expérimentales et peut-être un peu moins normées?
Ouais, carrément. Du coup, le nouvel album Face, c'est peut-être, je sais pas, un accomplissement de ce qu'on avait voulu faire tous ensemble. À l'époque, on était toujours un peu inspiré justement par les groupes qu'on avait écoutés étant gamin. Donc on s'était dit que on avait envie de faire cet album un peu classique rock avec une formation pareille au niveau des instruments très classiques. L'album Face, en fait, il nous a amené à des choses parce qu'on s'est beaucoup intéressé à la musique expérimentale. Du coup, Noise, chacun, on a déménagé à Nantes en fait après le premier album, et on a rencontré beaucoup de labels électroniques expérimentales. Du coup, tous un petit peu entrés là-dedans, chacun s'est acheté des pédales d'effet, essayé de les travailler jusqu'au bout, quoi, des pédales des fois à 10 balles qu'on a travaillé comme ça, essayé de construire ses propres instruments et un peu chercher le son et pousser chaque truc qu'on avait un petit peu soit dans notre sous-sol ou tranquille dans sa chambre. On s'est même intéressé à prendre le son. On a essayé d'enregistrer pas mal de nos morceaux pour essayer de comprendre même le placement de chaque fréquence, etc. Et cet album Face aussi, il y avait ce truc où Marie avait surtout l'idée de plus chanter en anglais. Du coup, Marie s'intéresse toujours à la poésie. On a essayé de rentrer ça là-dedans, sur des plages électroniques, rock. Donc voilà, en fait, c'est un gros mélange de tout ça. Ça a donné cet album, Face.
We'll be right back. que ça en tête. Des illusions de mots qui te trompent les sens et iront au loin. Les anachroniques. Est-ce que cela n'est pas la plus belle des trêves au songe, songe. Tu n'as que ça en tête. Des illusions de mots qui te trompent les sens et iront.
Que l'on vient d'entendre, c'était Silence des Toits sur Face, le nouvel album de Mosai Mosai. Comme on le disait juste avant, on entend pas mal d'influences, d'ambiances et de sonorités différentes, donc je me demandais comment vous travaillez ensemble pour construire vos morceaux. Est-ce qu'il y en a un qui propose un truc ou qui compose le morceau de A à Z? Est-ce que c'est des jams?
Donc ouais, du coup, pour la construction des morceaux, complètement différents ouais, du premier album. Donc on partait pas forcément d'un riff de guitare ou d'un truc même limité à la folk voix, et puis on a mis ça après à trouver une partie de batterie, etc. On était plus chacun aux manettes à chercher ensemble un peu mélanger les sons quoi, et du coup même des fois ça a été. Enfin, pas forcément tout le temps le texte qui a été posé après sur les chansons, mais ouais, on a aimé en fait trouver une nouvelle horizon au niveau d'écrire des chansons, donc plus le truc couplet refrain, voilà. En fait, là, on a même des fois choisi qu'il y ait des morceaux juste où il n'y a même pas de pulse, quoi, il n'y a même pas de tempo. C'est vraiment un amas de machines, de tout ce qu'on a pu essayer de dompter jusqu'à maintenant. Donc, ouais, une écriture complètement différente.
Et les textes de Marie, comment ils sont venus s'intégrer dans tout ça?
Alors, il s'est passé beaucoup de moments où, en fait, Marie prenait un petit calepin et puis écrivait tout ce qui lui passait par la tête en même temps qu'on buffait. En fait, on a trouvé un truc qui fonctionnait bien, c'est que bah, la musique s'écrivait en même temps que ça et elle pouvait nous interagir avec ce qu'elle était en train d'écrire. Et du coup, bien sûr, ça modifiait la musique derrière. Mais il n'y a pas eu vraiment de recette, en fait, pour tout l'album. Ça s'est fait, ça se fait bien différemment.
Sur le disque précédent, on était plutôt sur une approche assez courante dans le rock, avec quelque chose de structuré, comme une compilation de morceaux qu'on peut écouter séparément. Est-ce que quand vous avez composé Face, vous étiez dans cette optique-là également? Ou au contraire, est-ce que vous êtes parti sur une autre logique? Je sais pas, avec par exemple un disque d'un seul tenant.
Ouais, bah ouais, carrément. En fait, ça reste une pièce. Du coup, il s'appelle Face, l'album. C'est aussi. En fait, notre concept marche surtout sur le vinyle, évidemment, parce que il a pas de face, donc il a pas de sens. Il y a ce truc où soit tu te retrouves avec une partie brutiste à la fin et au début de la prochaine, ou soit l'inverse. Et. Donc ouais, c'est important quand même de l'écouter en entier. Donc on a été dépourvu de penser à ça quand on nous a demandé de sortir un single, etc. Avant, on n'avait pas pensé à tous ces trucs-là. Mais oui, évidemment que on tient à ce qu'il soit écouté en entier. Et il raconte une histoire quand même. Enfin, chacun peut se raconter celle qu'il veut, mais ouais, on tient vraiment à ce qu'il soit écouté d'une traite.
D'accord. Pour un album comme celui-ci, avec une approche vraiment expérimentale, est-ce que ça a été facile de trouver quelqu'un pour le sortir, le disque ?
Alors en fait, on a eu la chance de rencontrer Richard Gauvin. C'est celui qui a créé le label, du coup, Figure Libre. Il a les Rocomotives aussi, le festival. Et à l'époque, bah moi, je jouais dans Opac et il s'était beaucoup intéressé à l'album. Donc, on en est venu à tous le rencontrer. Et finalement, il nous a donné l'opportunité de faire énormément de résidences, il nous a proposé plein de choses. Donc maintenant, on est toujours fourré là-bas, quoi. Du coup, il a carrément accroché avec le projet, et au-delà, on est devenus amis, du coup, il nous a donné toutes ces opportunités qu'on fait qu'on n'a pas cherché un label, en fait, pour sortir notre disque. C'est plutôt lui qui nous a poussé même à le sortir comme ça. Aujourd'hui, on a la chance de faire là, ces 500 vinyles. Bon, c'est un rêve de gosse, un peu, du coup, ouais, ça s'est vraiment fait petit à petit. Avec eux, en fait, toute l'équipe nous a accompagnés partout, et même dans nos différents projets, en fin de compte, Figure Libre est toujours là avec nous, donc c'est vraiment cool ce qui se passe aujourd'hui avec eux, on en est très fiers, quoi.
Au regard de l'horizon, à l'aube du départ, se croisent dansant dans les fourgons les murs défaites de leur arbre, coulant à travers les murs s'échappe le violet du corps gris. Écoute encore les murmures des hommes devant assis qui rient.
C'était Philémon de Mossaï Mossaï, et le titre que l'on entend est un extrait de Charge sur leur nouvel album Face, tout juste sorti chez Figure Libre et sur le label 100% DIY Reverse Tapes qu'ils ont monté avec leurs copains de la bande de Jazz à Tours. Il est dispo dans les bacs et sur toutes les plateformes. Si vous voulez découvrir le disque en live, n'hésitez pas à aller voir les dates de Mossaï Mossaï sur leur page Facebook et Instagram, ou à leur proposer carrément de venir jouer près de chez vous, dans votre squad, dans une ZAD, ou partout où les voisins ne seront pas trop regardants sur le volume des amplis.
La journée est faite, les verres doucement se brisent, les murs pourrissent, pour que tombent dans la nuit les buissons de vie, que la danse de la peine soit bannie de leur table.
et que nos corps s'enlacent, médisant leur calme.
Cela en continue. Des grésillements se balançaient dans les fréquences, autour d'une ligne muette. Des claquements.
Dans la suite de ce numéro, nous retrouvons Coco Aikura, qui nous présentait cette semaine son premier album solo, A Place Called Home, sorti chez Chromatics et Musigami. Elle est interrogée par Jordan de Radio Méga.
Grenzen überwinden, Gedanken schwerelos verbinden, die Pensée sans frontière, est-ce la fin de la misère? Habitant la terre. Swipen, switchern, snappen, liken, durch ne Linse sehen und weit verbreiten, doch Heimat nirgendwo. Le cœur brisé, Heimat c'est qu'un mot. Tendre le couteau. Sie sagen, home is where your heart is. Mais je l'ai perdu. Home is where your heart is. Ça n'existe plus, je marche. Le marché noir, die Finsternis, verbindungsarm und gangsterisch, Borders Mainz und Stacheldraht, l'esprit brisé, la vie se cache, lassée. Heimlich épuisé. Sie sagen, home is where your heart is. Mais je l'ai perdu. Home is where your heart is. Ça n'existe plus. Je marche. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche.
C'était Home de Coco Aikura, extrait de son premier album homonyme qui vient de sortir chez Chromatics Productions. Vous l'avez peut-être déjà connue sans le savoir, à l'époque où elle chantait dans le groupe franco-germanique Yalta Club. La chanteuse multi-instrumentiste Corina aka Coco Aikura est avec moi aujourd'hui pour parler de son premier disque. Bonjour Coco.
Bonjour.
Alors on vient d'écouter Home, extrait de ton premier album qui porte le même nom. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce titre ?
Oui, donc Home, je l'ai écrit, je pense, pour deux raisons différentes. C'est un morceau que je chante en anglais, allemand et français, parce que je suis allemande à la base, comme on peut entendre. Mais j'ai vécu à Paris pendant des années et en fait, le morceau parle du fait d'être un peu partagé entre les villes, partagé entre les pays même, et de chercher un peu cette base, cette home, quelque part, soit en soi-même, soit quelque part un lieu physique. Donc ça a été inspiré par ça, mais aussi par mon travail que je fais à côté de la musique. J'ai monté une structure, une association qui s'appelle Mosaïque. C'est une structure qui aide, entre autres, des réfugiés en Allemagne. Et donc j'ai parlé avec plein de gens qui ont dû fuir leur pays, et le morceau était aussi inspiré de ces gens-là qui ont dû fuir de leur maison à cause de la guerre ou d'autres raisons. Et donc ce morceau-là parle aussi de la perte de sa maison.
Eh bien justement, parlons alors de ce premier album de Home. Tu viens de le dire, tu es impliqué dans les questions migratoires. Est-ce que c'est justement un peu ce que tu viens de dire, c'est le fil rouge de cet album, cette question de la migration et peut-être ton engagement militant qui se traduit dans ce disque?
Je dirais qu'il y a plusieurs sujets qui sont vraiment importants pour moi, et c'est sûr, c'est l'engagement politique, c'est sûr, mais il n'y a pas que la migration, il y a aussi l'égalité hommes-femmes, il y a aussi les droits LGBTIQ et les droits de l'homme tout court, en fait. C'est sûr qu'il y a ce fil rouge-là qui m'a toujours été très important et qui a toujours été très important pour moi. Mais aussi, l'album, pour moi, c'était important de transmettre des émotions aussi. Donc, je ne sais pas si je dirais si c'est un album engagé ou si c'est plus une vision artistique qui est inspirée par des faits politiques et sociétaux.
Et alors, c'est ton premier album solo, comme je le disais. Quand et pourquoi tu t'es dit « Ok, je me lance, je fais un disque toute seule ». Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Est-ce que c'était irrépressible? Comment ça s'est passé?
J'ai toujours eu envie de faire un truc qui était juste à moi, entre guillemets, qui transmet vraiment mes émotions à moi et mes textes et ma musique, parce que même si j'adore Yalta Club et je suis super contente d'être toujours avec le groupe, on est 5 dans le groupe, donc il y a 5 avis, il y a 5 goûts musicaux différents, et du coup, d'avoir cette liberté et de juste faire ce que j'avais envie de faire, c'était trop cool. Et du coup, pendant le Covid, j'étais en Allemagne et j'étais un peu comme tout le monde enfermée chez moi, et du coup j'ai tapé sur sur des casseroles, j'ai joué avec mon petit synthé et j'ai essayé plein de trucs, et du coup j'ai composé plusieurs morceaux et je me suis dit non, j'ai vraiment envie de faire un album, et je suis très contente que ça soit sorti là maintenant.
Alors, tu as fait un album solo, mais en vrai, on n'est jamais tout seul.
On n'est jamais seul, c'est sûr.
Il y a une équipe, j'imagine, autour de toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, bien sûr. Donc, déjà, musicalement, j'ai enregistré l'album avec Missing Cat. C'est une amie à moi qui s'appelle Caterina Barbieri, qui est géniale. C'est une productrice vraiment très, très forte, et elle a... elle a fait la production de l'album et on a enregistré toutes les deux, on a tout fait nous-mêmes, sauf les violons. Donc on a, à la fin de la production et de l'enregistrement de l'album, on s'est dit allez, on se paye 2 journées en studio, dans un grand studio, et on a enregistré quelques cordes avec des potes, mais sinon le reste, tout ce qu'on entend, c'est soit Kate, soit moi qui l'ont joué.
Et alors, est-ce que tu vas partir bientôt en tournée? Est-ce que tu fais des clips? Est-ce que l'esthétique a beaucoup d'importance pour toi? L'imagerie?
Oui. Donc, j'ai fait plusieurs concerts. Il y a la saison des festivals qui va commencer et j'en joue un peu en Allemagne, pas encore en France, mais j'aurais très envie. Donc, j'aurais très envie de jouer partout.
Un appel au programmateur.
Voilà, exactement. Ouais. Je suis là. Chaud. Un clip va sortir que je vais tourner avec Tom Hawass. Je vais aussi accompagner par une édition qui s'appelle Musigami, qui est géniale. Donc Philippe qui m'accompagne, il m'a mis en contact avec le réalisateur Tom Hawass, et on va faire un deuxième clip. On a déjà fait un premier clip ensemble sur un morceau qui s'appelle Military Birds, et là on va faire un clip sur Home qui sortira en juin. Et l'esthétique est très important pour moi, parce que du coup, pour moi, la musique, c'est vraiment la base, et c'est vraiment le truc qui est le plus important pour moi. Mais sans l'esthétique, c'est beaucoup, beaucoup plus dur de transmettre des émotions. Et du coup, je suis très reconnaissante d'avoir Tom et Philippe et d'autres qui m'accompagnent là-dessus, parce que dans l'image, moi, je m'y connais pas trop. Donc moi, je me concentre sur la musique et je suis très contente de travailler avec des gens qui ont une très belle esthétique, qui me correspond.
Peut-être que c'est le bon moment d'écouter ce morceau qui s'appelle Mirror. Tu peux nous en dire quelques mots. Juste, je dis un mot sur la pochette dont tu viens de parler. Pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne l'ont pas vue. Ce sont différentes photos de toi qui sont déchirées en bandelettes et qui sont collées les unes à la suite des autres pour faire des miroirs, mais déformants finalement, puisque c'est différentes émotions.
Exactement, exactement. Tu l'as très bien écrite. Avec ce morceau.
On écoute Mirror alors, de Coco Aikura, extrait de ton premier album Home.
Can you tell me? Look in the mirror, not sure what I see. Lost my mind. Get us or by. La memoir pour. Ich bin ins Wahrheit enteignet leise geworden. No need to hide. Head up high. So go. Thank you.
êtes toujours à l'écoute de Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Nous venons d'écouter Mirror de Coco Aïkoura, avec qui je suis toujours en relation via les internets. Alors Coco, j'aimerais parler avec toi de l'importance des langues, puisque dans ton disque, il y a trois langues. Tu es allemande, tu as vécu en France longtemps, d'où ton aisance à parler français. Est-ce que tu peux nous expliquer ce lien que tu entretiens peut-être avec les langues et comment tu fais pour choisir ou pas finalement une langue pour écrire un morceau et pas une autre?
Quelquefois c'est vraiment décidé et quelquefois ça me vient, juste comme ça. Donc j'écris une mélodie et comme j'ai un accent en français comme on peut entendre, mais du coup quelquefois je réfléchis en français. Et je rêve en français et ou en anglais quelquefois. Donc ça m'arrive de me réveiller avec une mélodie et d'avoir déjà des mots dans les trois langues et je ne me rends même pas compte. Donc quelquefois, même quand j'écris mon journal, je passe de l'allemand au français naturellement. Donc quelquefois dans les morceaux, par exemple Home, c'était écrit complètement naturellement. Donc j'ai juste écrit ce morceau-là parce que je me suis dit les mélodies et les mots, ça collait très très bien ensemble. Ce Mirror qu'on vient d'écouter, c'était un peu plus choisi, que je me suis dit à chaque moment j'avais vraiment envie de mettre une ou l'autre langue en fait, de me focaliser là-dessus pour certains mots. Donc ça dépend en fait des morceaux, quelquefois c'est choisi, quelquefois c'est naturel.
C'est la poésie quoi, ça vient.
Ça vient.
Ou ça part.
Oui, c'est ça.
Alors, on se rapproche dangereusement de la fin de cette interview, mais quand même, je pense que tu as tout autant envie de moi de parler de sororité et puis de parler un peu plus de ta complice Missing Cat, qui a produit ton disque et avec qui, j'imagine, tu as beaucoup travaillé, beaucoup discuté, passé beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous parler de vous, de elle, de cette relation que vous avez?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est géniale. Et on s'est vraiment super bien entendu musicalement, mais aussi amicalement. Donc on s'est vu pendant un an et demi, on s'est vu régulièrement, mais comme toutes les deux, on avait aussi plein d'autres projets, on s'est pas vu tous les jours non plus, mais genre une fois par mois, et puis à la fin, on a aussi fait une semaine vraiment très intense. Et donc, musicalement, déjà, c'était génial parce qu'on avait vraiment la même vision. Donc moi je proposais des trucs où j'avais déjà écrit les morceaux, mais du coup elle a mis son regard, elle a vraiment aussi fait beaucoup, elle m'a vraiment inspirée à aller plus loin dans la production et même dans les pensées, dans les textes aussi de temps en temps. Et après c'était un travail incroyable parce qu'on était là pendant 8 heures ensemble à juste chercher le bon kick par exemple.
Alors et ben justement, on va écouter un morceau de Missing Cat pour se quitter, puisque cette interview est terminée. C'est un morceau qui s'appelle Mascarade, donc de Missing Cat. Merci beaucoup Coco Aïkoura. Je rappelle que ton premier album Home sort chez Chromatic Productions. Et puis on pourra retrouver toutes les informations te concernant sur le site de la Ferrarock, ferrarock.org. Et on retrouvera également le podcast de cette Dig Dig Diggers. Merci à toi et salut.
Merci beaucoup, salut.
Our hearts are hollow, but our teeth are sharp. Fragile spine behind the sparkling smile. It's a masquerade, a masquerade. Nothing is real. Here we come now, a parade of fools. Stars collide. Each other under the darkest sky. Hollow hearts crash into one another, trying to connect. Super moon approaching at the speed of light, lighting the darkness up, making me see. Hollow hearts are crashing in the darkest night. Here we come now, looking for
you're brazen, you're a plus, you're a plus. Narcissus drowned, we are still alive. Maybe heroes do belong to heaven, but you and I remain here. You and I just put on a show. Here we come now, it's such a masquerade. Stars and light, we're looking for each other under the darkest sky. Hollow hearts crashed into one another, trying to connect. Supermoon approaching at the speed of light, light in the darkness of making me see. Hollow hearts are crashing in the darkest night.
Dig, dig, dig.
Terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Focus sur la 14e édition du festival Motocultor qui fait la part belle aux musiques extrêmes et qui se déroulera dans le Finistère du 17 au 20 août prochain. Pour en savoir plus, retrouvons Adrien de Radio PFM à Arras en compagnie de Yann Le Barillec, programmateur du festival.
Alors pour ceux qui auraient la mémoire courte et qui se souviennent plus de l'année dernière, est-ce que tu peux rappeler ton rôle dans le festival Motocultor ?
Je suis directeur et fondateur du festival.
Ce qu'il faut dire avant d'attaquer sur l'édition 2023, c'est que l'année dernière, c'était le grand retour du Motocultor après la crise Covid. Très rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette édition 2022 ?
Le retour post-Covid était bien au niveau de l'ambiance et de la fréquentation. C'est un record. Par contre, c'est par rapport à, on va dire... au nombre de groupes qu'on avait mis, c'était pas suffisant pour être à l'équilibre, donc on était déficitaire sur l'an dernier. Je pense que c'est dû au fait que c'est post-Covid, l'édition Double Fest en face, on l'a ressenti un peu en fréquentation. Il y a pas mal de gens d'habitués qui sont pas venus, qui nous disaient la prog est super, mais pas pour nous cette année. Ça revenait très fréquemment les mois qui précédaient les festivals et quand on distribuait des flyers au Hellfest ou des choses comme ça, les gens nous le redisaient. Ah putain, cette année je peux pas, j'ai pas assez, plus trop d'argent. Et surtout, ça fait très longtemps avec le Covid que les gens n'étaient pas partis en vacances. Et du coup, beaucoup, même dans nos chefs de poste, beaucoup de gens ont dit 2022, on revient pas, mais on revient à nouveau en 2023.
Le festival, au cours de son histoire, a changé pas mal de fois de point de chute. Et cette fois-ci, il y a un nouveau départ qui s'enclenche à Carhaix. Et du coup, comment vous vous êtes retrouvé à Carhaix, tout simplement ?
C'est vrai que sur les premières années, c'était passé par différentes communes. C'était l'objectif, on fait nos preuves. Et puis un jour, on espère réussir à convaincre Saint-Dolphe de nous accueillir. Ce qui est arrivé qu'en 2013. Et ensuite, on a fait 8 éditions à Saint-Neuf, comme on espérait. Il y avait depuis 2-3 ans, justement la dernière année avant le Covid, il y avait des petits points désaccords. La mairie souhaitait qu'on revienne, que le festival perdure pas 4 jours. Donc, on a réussi à obtenir gain de cause en 2019 et pour l'édition qui a suivi, qui a été reportée à 2022. Et par contre, il y avait rien de certain pour 2023. On attendait un vote au conseil municipal qui a jamais eu lieu et on a demandé par écrit une réponse pour qu'on puisse, nous, se projeter durablement sur l'après 2022, on va dire. Et on a eu une réponse début juillet que le secret de la mairie, c'est un retour à 3 jours, ce qui était inenvisageable pour nous, parce que, comme on leur disait depuis 2019, maintenant, notre modèle économique, on optimise les coûts en étant sur 4 jours. Ça nous permet de réduire pas mal de frais, d'optimiser. Et surtout, tous les festivals métal maintenant, après le Covid, c'est le format standard 4 jours. Et pas que dans le métal d'ailleurs, mais du coup, on pouvait pas revenir en arrière. Surtout qu'il n'y avait aucune raison qui justifiait ça. Il n'y avait aucune nuisance pour personne d'être à 4 jours sur le territoire de Saint-Neuf. Donc à ce point-là. Puis après, deux autres problématiques, problématique de parking. Dans les prochaines années, il y a des terrains qui seraient constructibles pour la zone d'extension d'activité, la zone de Kerboulard, et du coup des terrains qu'on allait perdre. Et on voulait échanger sur comment on fait pourquoi il n'y aura plus ces terrains-là, est-ce que c'est possible de continuer à organiser le festival. Et il n'y avait pas d'échange là-dessus, donc ça c'était un deuxième point qui à un moment ou un autre nous aurait amené à bouger. Et le troisième point, c'est aucune perspective d'aménagement du site depuis 2006. Et nous on est arrivé en 2013, bah ça, c'était pareil, il n'y avait pas de perspective. Pourtant on arrivait avec des financements, on avait plein d'idées et pas de discussion et pas de perspective d'aménagement. Donc à un moment donné, bah, ça aussi c'était une raison suffisante pour se dire qu'il faut peut-être réfléchir à aller ailleurs. Malheureusement, et pourtant c'est le site. Donc là, la page est tournée du Morbihan et on a réussi à avoir l'opportunité d'aller à Carré.
Cette année, on retrouve à nouveau 105 groupes à l'affiche. Et est-ce qu'il y a un coup de filet dont tu es particulièrement fier cette année?
Alors c'était pas prévu au début, mais on a rajouté cet hiver, en décembre, j'ai fait rajouter une quatrième scène le jeudi, parce que la quatrième scène l'an dernier, elle était présente sur les trois derniers jours du festival, mais pas sur la première journée. Et finalement, on a rajouté 5 groupes en rajoutant une scène dès le jeudi. Et du coup, on a 110 groupes, mais pendant très longtemps, on a communiqué sur 105. Et finalement, on a 110 groupes à partir de cette année. Et du coup, le groupe phare, c'est depuis 2014, on essayait d'avoir Warzruna et de les avoir là, on est sous bouillon, là, et c'est assez incroyable.
A dit plusieurs fois que donc le festival comptait 4 scènes et est-ce que un peu comme certains autres festivals les scènes sont thématiques, est-ce qu'il y a un truc qui prédétermine où vont se trouver les groupes ou pas du tout?
Non, il y a pas de, ça dépend des fois, il y a par exemple la Suppositor Stage, ouais, ça c'est tous les groupes un peu métal énervé old school, ça c'est sur la Suppositor Stage depuis ça a toujours été là-dessus. Et sur la Massey Ferguson, c'est un peu tous les aussi le métal sauf ce qui passe sur la Suppositor. Après il y a la Bruce Dickinson, c'est thématique mais par journée, le jeudi par exemple c'est du pagan, et le vendredi. Le samedi, c'est tout ce qui est plus vraiment ciblé punk, hardcore et un peu des musiques dans cette veine-là. Et le dimanche, c'est plus stoners à la Bruce. Voilà.
L'une des motivations à changer de lieu, c'était l'accessibilité, le parking, etc. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de l'accessibilité du Motocultor à Carré au niveau des installations? Où seront les parkings? À quelle distance seront-ils?
Et du coup, on a réussi à garder quelque chose de compact comme on avait à Saint-Neuf. Donc, du coup, le site concert et le camping sont vraiment les entrées camping et entrées festival. Ça peut pas être plus proche l'un de l'autre, donc ça c'est bien. Et c'est entouré de deux parkings qui sont proches les uns des autres. Ceux qui vont venir de Rennes, il y aura un parking, on va dire dédié à ceux qui viennent de là, et qui est je dirais 800 mètres, 1 km. Et puis ceux qui viennent par d'autres chemins, par Vannes, Quimper, Lorient, ça sera plutôt 600 mètres, 600, 700 mètres. Et quand on arrive, c'est plus facile, il y a des axes, il y a un parking qui est... on a évité de faire passer par la rocade de Carré pour éviter des bouchons, que ça soit contraignant et pour les habitants et pour les festivaliers. Donc là, en divisant en deux parkings, du coup, ça va être beaucoup plus fluide et les deux sont assez proches du site.
Mis à part l'affiche, à quelles nouveautés on peut s'attendre sur le festival? Est-ce qu'il y a des surprises? Alors, faut peut-être pas tout spoiler, mais est-ce qu'il y a des nouveautés à quelles il faut s'attendre?
Du coup, là, pour le moment, c'est... Il y a pas de déjà il y a 4 scènes le jeudi maintenant. On reste sur la formule sans des groupes à accueillir, des groupes internationaux, et c'est le fait, rien que le fait qu'un nouveau site déjà, ça fait pas mal de surprises pour la première année à Carré, déjà c'est déjà pas mal. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place au niveau organisation, mais c'est encore trop tôt aujourd'hui pour pouvoir en parler parce que c'est pas finalisé à 100%, donc on attend de voir si ça fera dès cette année ou l'an prochain au fur et à mesure on communique là-dessus.
Un festival comme ça, notamment un festival de cette taille avec autant d'artistes, c'est aussi beaucoup de petites mains qui travaillent. Et alors, je sais que la campagne est en cours, mais vous pensez bosser avec combien de bénévoles cette année?
Alors là, on a fait nos objectifs, c'est d'avoir 1000 bénévoles. Et on est déjà, au bout de 8 jours, on est déjà 40% des objectifs, ce qui est en une dizaine de jours. Ça répond très vite cette année, c'est bien. Et en plus, on est sur un territoire, le Finistère et le territoire du Pays de Carré. Il y a beaucoup de festivals dans le Finistère et sur Carré, il y a les Vieilles Charrues. Et on bénéficie un peu de l'expérience de tous ces festivals parce qu'il y a un réseau de bénévoles sur le territoire vraiment impressionnant. Et beaucoup de gens sont très curieux de venir sur le festival. Depuis septembre, on a plein de demandes spontanées d'associations, de gens. On n'avait jamais eu ça dans l'ambiance. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Donc on a parlé des bénévoles. Pour toi, l'ancrage local justement de la région bretonne au Motocultor, il s'illustre dans quels autres aspects?
Au niveau promotion, on fait aussi de la promotion de groupes soit qui viennent de Bretagne connus. L'an dernier, il y avait Don Esprit Jean, il y avait Alan Sivel en 2019. Là, cette année, on est sur... il y a des groupes locaux émergents comme Commodore. C'est un groupe qui avait fait des trans musicales il y a quelques années. C'est tout jeune du Finistère. Et ils font de la musique des années 60 avec des orgues des lointains successeurs de Deep Purple, des choses comme ça. Donc c'est assez fou. Puis ils sont tout jeunes et ils ont retapé des orgues de l'époque. Et vraiment c'est bien de mettre un coup de projecteur sur la scène locale. Donc là, on a plusieurs artistes comme ça dans la programmation.
Cette année, on a pu voir aussi le Motocultor se balader un petit peu à travers l'Europe. Et c'est pas forcément commun de voir un festival faire des warm-up internationaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça?
Du coup, on a eu des propositions de gens qui bossent avec nous régulièrement pour nous aider à faire des warm-up. Et d'habitude, c'est plus à l'occasion comme ça. Et là, c'est Access Live là, qui a eu l'idée de faire nous aider. Il voyait qu'on organisait des tournées warm-up, mais c'était surtout en France, dans l'Ouest, et depuis 2019. Et là, il nous a proposé qu'il avait un plan avec une autre boîte de booking, un autre promoteur européen, pour qu'il y ait toute une tournée, une quinzaine de dates, ce qui a été mis en place en janvier cette année. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on nous en parlait, mais avec le Covid, ça n'avait pas pu se faire. Puis c'est difficile de trouver un plateau de groupe sur une durée aussi longue, et il faut trouver les bonnes dates, les réseaux de salles et tout. Et là, bah, ça a pu se mettre en place en janvier, c'est bien cool.
Et pour conclure, et histoire de mettre un petit peu la pression aux auditeurs, quelle est la jauge du festival, et à l'heure actuelle, vous en êtes à peu près quel pourcentage de plein
Alors, on est sur 15 000 jours. Là, pour le moment, on est, je dirais, à 40% des places vendues. Et là, avec la semaine prochaine, bon, on fait la dernière annonce de groupe, le Running Order, donc ça risque de partir. C'est pas 3 jours, là, il va commencer à en manquer. Je pense début juin, on va communiquer là-dessus, qu'on sent que ça risque de manquer en passe 3 jours. Et passe journée, ça se vend bien, le samedi notamment.
C'était Adrien de Radio PFM. Pour Dig Dig Diggers.
Choses que tu vois pas, enterrées dans les cœurs, dans le silence des ténèbres. Les seules choses que t'entends pas, les colères, les pleurs, c'est un bruit qui se soulève.
Merci d'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, nous vous présentions Face, deuxième production de Mosai Mosai, sortie le 26 mai chez Figure Libre Records, ainsi que le premier album de Koko Aikura, nommé A Place Called Home, sorti quant à lui sur Chromatics et Musigami le 12 mai dernier. Plus d'informations sur le www.ferrarock.org. Salariés et bénévoles du réseau Ferrarock qui seront eux présents sur la nouvelle édition du Motocultor Festival pour réaliser du contenu à l'aide du camion studio de Radio Pulse. Rendez-vous du 17 au 20 août prochain et sur motocultor-festival.com. One by one, one by...